chanter toute la nuit.
Légende panique.
Chapitre 50. Mars-mai 1995. Les trois mois d'enfer. Panique sinistrée.
Le 1er mai 1995, un animateur passe par hasard à Radio Panique. Il ouvre la porte et suffoque sous une épaisse fumée. La radio est en feu.
J'habite juste ici à côté. Et un matin, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai vu plein de camions de pompiers ici en face. Donc il y avait un incendie, j'ai téléphoné à Constant pour lui dire qu'il y avait le feu à la radio. C'était quand même assez...
Moi c'est le gros truc. Plus atroce de ma vie, je crois. C'était horrible.
Surtout qu'on était... Il y avait une soirée la veille et qu'on était quelques heures avant, on était ici.
Ah, ouais, c'est ça.
Donc c'est vrai que c'était un fameux flash.
Non, c'était atroce. Je suis bien d'accord.
Mais bon, en même temps, je trouve pas que c'est aussi mauvais souvenir non plus.
Enfin, oui, non, c'est pas... ça, avec le temps. Non, mais le jour même, c'était horrible.
Ouais, c'était...
Ce matin-là, en plus, on avait dormi 2-3 heures. C'était hard.
Le feu a pris dans une pièce jouxtant le studio, qui avait été décoré avec des tentures de plastique, et où, la veille, quelques animateurs avaient festoyer. Les murs épais et les plafonds dépourvus de charpentes en bois ont heureusement empêché l'incendie de se propager dans le bâtiment. Mais pour Panique, c'est le désastre. La fumée des matériaux synthétiques, conjuguée à l'arrosage des pompiers, a recouvert d'une infecte couche de suie les surfaces du studio, de la régie technique et de la cuisine. Tout est absolument noir, même les lampes halogènes n'éclairent plus rien. Tous les appareils sont endommagés et inutilisables. Il ne reste rien des fresques murales. Des centaines d'heures de travail sont ainsi réduites à néant.
Par la faute d'un mégot mal éteint.
Par la faute d'une gomme mal étreinte.
D'ailleurs, je sais jamais, j'ai du mal à savoir, enfin, m'imaginer comment, qui a trouvé l'énergie pour remettre tout, pour se dire que ça va continuer. C'est vrai que les dégâts étaient assez...
Les dégâts sont évalués à environ 25 000 euros. Une nouvelle fois, l'assurance joue à merveille son rôle. Lorsque les lieux sont décontaminés, Patrick Verdreng dirige la reconstruction.
Est-ce que tu te souviens du jour de l'incendie ? Enfin, j'imagine que oui. Raconte-moi tes impressions sur le jour de l'incendie. Comment tu l'as appris ? Où est-ce que tu étais ?
J'étais à ma maison, on me téléphone. Patrick, il y a eu un problème. Il y a eu un incendie, fais voir. Je me suis rendu à la caserne et bon, ce que je voyais là, c'était un énorme trou noir. C'est inimaginable, du jamais vu. Tout est noir. Même là où il n'y avait pas eu de feu, c'était noir. Alors, la première chose que j'ai fait, j'ai commencé à couper des fils, à retirer des fils. Et le même jour encore, on avait un studio provisoire. Je ne sais plus si c'était le même jour, mais de toute façon, j'ai commencé à apprendre à couper et souder pour qu'on puisse réémettre le plus vite possible.
Comment t'as trouvé l'énergie, là, quand t'as vu ça? T'as pas été... Parce que finalement, c'était ton œuvre qu'on venait de brûler.
Oui, mais je sais pas, je suis comme ça quand je suis... Mes vraies émotions, ça a besoin de beaucoup de temps pour monter. Ouais, je sais pas.
Donc tout de suite refaire un studio provisoire.
C'est pas que j'aime le challenge, non, mais c'est un raisonnement très pratique. Bon, là, ne fonctionne plus, donc il faut penser à créer un alternatif, à trouver une solution. Panique, ça a toujours été plein de... une histoire chargée d'émotions et de déceptions. Là, un jour, on est content puisqu'on a progressé, et deux jours après, baf, il y a une déception parce qu'il y a eu un vol, il y a eu une destruction, il y a eu je ne sais pas quoi. Je n'ai pas dit qu'on peut s'attendre à toujours un...
Pardon.
J'ai pas dit qu'on peut s'attendre à tant de choses inimaginables que on s'accoutume des déceptions. On s'accoutume à des déceptions pareilles. Voilà.
Et puis, après l'incendie, tu recommences tout à zéro. On recommence le studio. On repart, on reconstruit.
Ouais, la reconstruction. La reconstruction qui était une entreprise merdique, puisque la radio avait une centaine d'animateurs, mais il n'y avait que deux ou trois travailleurs. Et donc, il fallait faire des enquêtes téléphoniques pour contacter tout le monde. Et j'ai essayé de contacter vraiment tout le monde en leur demandant, est-ce que vous n'aurez pas envie de travailler? On a besoin de vous, c'est votre radio aussi. S'il vous plaît, si vous ne participez pas, on n'avancera pas, etc., etc. Alors, déception une fois de plus qu'il y avait tant... si peu de gens intéressés à travailler, comme partout dans la vie associative. Et alors, on a eu deux ou trois jours des chantiers, on l'appelait des jours de chantier, je crois pendant les grandes vacances.
Ouais. Et ça a bien marché?
Ça a bien marché, oui, mais il faut déjà voir que l'incendie était en mai et ce n'est qu'en juillet et août que les gens commençaient à se laisser mobiliser ou à se mobiliser.
Peut-être parce qu'ils en avaient marre d'être dans le studio provisoire.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour la reconstruction, c'était une machine lente, très lente, qui a pris beaucoup de temps pour se mettre en route. Et alors, après les grandes vacances, une fois que les grands travaux du nettoyage du bâtiment étaient terminés, en ce moment-là, moi je me suis installé tout seul dans le studio, et je me suis dit, quand même j'avais un peu pris en otage la radio, puisque je me suis dit, bon, vous, les gars, vous vous dépêchez pas pour réparer la radio. Eh ben, je ne vais pas me dépêcher non plus pour reconstruire votre studio. Et j'en avais profité pour m'installer dans le studio tout seul et pour terminer tous les petits travaux que je voulais encore terminer et aussi pour améliorer les choses où j'avais commis des erreurs avant. Et donc, j'en ai profité pour replacer les étagères qui tenaient les appareils. Je les ai remplacés par des meubles solides dans lesquels les appareils sont vissés. Mais finalement, ça prend beaucoup de temps pour construire ça. Moi j'ai travaillé 3-4 mois tout seul dans le studio-là. Et en décembre, j'ai dit, ok, ça va, elle n'est pas encore prête, mais il faut que je la cède à la société.
Mais tu en avais quand même profité pour revoir la conception et corriger toutes les erreurs.
Oui. Certaines. Mm-hmm. Ouais. Et surtout faire des améliorations, mais donc à mon rythme. Et ça se voit encore, puisque 6 ans après, je suis toujours encore en train d'améliorer, rajouter. Et ce ne sera jamais terminé. Puisque le problème de Radio Panique, quant à la technique, c'est que Panique n'a pas de l'argent, ni l'énergie humaine, pour faire comme les grands. Dans une grande radio, la RTB ou la BRT, là, on prend 6 mois pour démolir un studio, on prend toute une équipe de 10 personnes pour reconstruire un studio en 5 mois, et voilà, on a un studio terminé qui, après, peut fonctionner pendant 10 ans. Mais j'ai pas dit qu'il n'y a pas d'argent ni la force humaine pour faire ça. Donc, le studio de panique, c'est forcément quelque chose qui est toujours en évolution et qui démarre de zéro, mais qui, après 10 ans, sera à 100%.
Pas de panique sans Patrick!
Cubby, cristallophone, cinéphique, cocktail musique, colors latino.
Les gens de panique!
Comme à la radio, André Salgado.
Tout d'abord, j'ai suivi l'exemple de mon ami et collègue Eric Georges, qui a commencé sur Radio Panique bien avant moi. Et c'est en allant lui rendre visite dans son émission, en faisant quelques menus travaux pour lui, comme des lectures de textes ou des choses comme ça, que ça m'a donné envie de m'y mettre à mon tour. Mais en fait, bon, mon rapport à la radio, c'est surtout le texte, quoi. Au départ, c'était ça qui m'intéressait, c'était savoir ce que je pouvais faire avec ma voix, comment la parole s'articulait là-dedans. Et bon, tout le reste, c'est un peu venu sur le tas, parce qu'une fois qu'on commence, on est bien obligé de s'y mettre et d'explorer un peu tout ce qu'il y a moyen de faire avec le son, avec les disques, etc. Mais au départ, c'était plutôt venir parler et communiquer du texte, quoi. C'était ça, l'idée de départ.
L'idée initiale. Et ça, t'étais déjà venu à l'idée de faire de la radio avant de connaître Eric Georges ou...
Mais écoute, j'en écoutais pas mal. Et je trouvais que c'était un média intéressant par rapport à la télé, par exemple, ou des trucs comme ça, parce que ça réservait une plus grande part à l'imagination et au mystère. Et ça me plaisait bien. Si tu veux, ça la rapprochait de ce que je trouvais dans les livres. Et c'est vraiment les deux trucs qui m'intéressent, c'est la radio d'une part et les livres de l'autre. Et la télé, tout ça, par exemple, ça me disait absolument rien, malgré le fait qu'on m'en forçait, on me forçait à en voir beaucoup. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, hein. Mais quand j'étais petit, j'ai été saturé. Il y a une époque où j'en pouvais plus, quoi. Et j'ai commencé tout seul dans ma petite chambre à écouter la radio et je trouvais ça chouette. Mais effectivement, s'il n'y avait pas eu l'exemple d'Éric Georges, je ne pense pas que j'aurais sauté le pas et que j'aurais eu l'idée tout seul de venir proposer un projet à la radio.
Justement, c'était quoi le projet ?
Alors, bon, à la base, l'idée, c'était de mêler une pratique plus ou moins normale de la radio quotidienne et de la fiction. C'est-à-dire que, sous couvert de fiction, on pouvait faire plus ou moins ce qu'on voulait et amener son propre matériel, venir raconter ses propres histoires, mettre sa propre musique ou ses propres ambiances sonores, chacun de son côté. Et le résultat, c'était une sorte de collage. Alors, qu'est-ce qui justifiait cette impression de collage, etc. C'était le fait que nous, on n'était pas vraiment nous, on était des gens du futur qui essayaient de bricoler de la radio dans un monde où la radio, c'était pas possible et c'était interdit. Et alors, il découvrait en quelque sorte la magie des ondes et en plus la mémoire du monde qui était répertoriée en fait sous forme d'ondes qui volaient dans l'air, qui étaient difficiles de récupérer sous leur forme initiale, d'où les distorsions, les difficultés, les petits bouts de machin qui se promènent à droite et à gauche dans l'émission. Donc au départ, tu vois, infaisable en direct.
J'écris avec la moitié d'un stylo offert il y a peu. L'autre moitié, je ne sais pas où j'ai pu la fourrer. Il faut dire que ces déménagements qui n'arrêtent que pour recommencer, je ne sais plus où j'en suis parfois. Parfois même où je suis, difficile de s'organiser. Encore heureux, c'est la pointe, la moitié que j'ai encore, avec le capuchon, ce qui fait 2/3, et l'encre ne sèche pas parce qu'il n'y en a plus. J'ai dû donner la table contre l'encre, j'écris par terre comme un cul-de-jatte. Et on a retrouvé Dionysos dans un fossé, son cœur battait encore, sous sa chaise. Mais quand on l'a remis dedans, c'était fini, et on avait de la boue jusqu'au coude, je dis bien, ce qui fait que tout le monde était ravi, tu penses. L'autre avec sa chaise, quelle idée de sortir aussi par ce temps pourri. On est sale et en vain. Il est quand même mort, il aurait pu se décider avant. Est-ce que la chaise marche encore? Oui, on l'emporte. Je rentre en voiturette. Non, moi, j'ai eu l'idée, oui, mais moi, je t'assomme, là, je n'écris plus, je parle. Je voulais dire que je peux écrire en même temps, et parfois, ça m'arrive, mais je connais personne de vivant à qui écrire et adresser des lettres à des cadavres. C'est mal vu par l'occupant. Ils croient que c'est un truc et ils viennent vous trouver pour une petite explication, comme avec Laetitia, on ne l'a plus jamais revue. Il y avait des bouts de vêtements dans la forêt. Heureusement, il ne faisait pas froid ce jour-là et ça n'a pas duré très longtemps. Ils sont partis au crépuscule, l'air un peu ennuyés. On se disait que Laetitia allait rentrer à pied, mais elle ne pouvait plus, la pauvre. Et elle était frileuse en plus, alors... Ne plus écrire n'importe comment et à n'importe qui, même pas moi-même. Ils pourraient me confondre et... Et ça, je n'ai pas envie. Alors ne plus écrire du tout, se mettre à l'abri de ces inconvénients, comme la mort. Désagréable, oui, mais si je pouvais m'arrêter d'écrire ou de parler, ça se saurait. Peut-être m'attacher les mains, mais la deuxième, c'est plus difficile. Et il suffirait que je sois ambidextre, on a des surprises. C'est vraiment dommage, après tout, c'était un copain, je dirais même un bon copain. J'ai même bu avec ce... Comment s'appelait-il, oui. J'ai même bu avec ce Dionysos du temps où j'habitais quelque part.
C'était mal parti.
Et puis ça a donné quoi ?
Ben, ça a donné une version de Comme à la radio allégée d'abord, puisque c'était comme ça que ça s'appelait. Et en fait, on a assuré les deux heures en venant et en faisant plus ou moins n'importe quoi. Et on s'est dit maintenant qu'on y est, on doit continuer. Donc on a continué à 2-3 comme ça, à venir régulièrement et à... expérimenter, essayer de faire nos trucs. Comme on connaissait rien, on est venu, on a fait plein d'erreurs, on s'est bien amusé parfois. Et puis quand j'en ai eu marre, ça s'est arrêté, quoi.
Le choix de Radio Panique en tant que radio ?
Oui, alors Radio Panique, d'abord c'est parce qu'il n'y en a pas énormément qui m'auraient laissé faire ce que j'ai fait. Et ça, c'est une des qualités de Radio Panique, c'est que on peut y débarquer et on peut apprendre. Enfin, sur le tas, je ne vais pas dire qu'on ait des cours extraordinaires, hein. Je veux dire qu'on peut, faire son truc. Et ça, c'est très bien. J'ai envoyé aussi, par exemple, des projets à Radio Campus, pour ne citer qu'un exemple, qui sont toujours restés lettres mortes, parce que ça ne correspondait pas à la philosophie de la maison. Et voilà.
Organic Music Society, panaché, pas à part, pas de panique, plague.
La planète des songes.
Bon, en fait, j'écrivais les textes. Il y avait donc à nouveau un arrière-plan fictionnel. Et là-dessus, je faisais mes petits collages, mes petits bruitages, etc. Et je faisais ça à peu près tout seul, comme ça, j'étais tranquille. Je savais qu'il y aurait quelqu'un toutes les semaines en studio et qu'il y aurait une émission, quoi. Mmh. Voilà. Et donc, ça a eu 13 numéros. Dont certains réussis. 2-3 émissions vraiment dans bien de bout en bout dont je peux encore être fier, que je peux revendiquer comme des réussites. Et puis après, j'ai vraiment plus le temps et plus les sous pour m'en occuper, parce que ça aussi, c'est un gros problème, quoi. J'investissais beaucoup dans les sources sonores et je prenais beaucoup de temps studio les matins pour faire mes petits trucs, parce que j'ai pas de studio chez moi, j'ai pas de programme informatique, etc. Donc je venais et je travaillais 3-4 heures, 2 ou 3 matinées par semaine pour faire une heure d'émission toutes les semaines, quoi. Donc il y a un moment où t'en as un peu marre, et surtout quand t'as à nouveau aucun résultat, aucun retour, etc., quoi.
Et que personne ne l'oublie.
On trouve tout sur quelque chose qui répond à notre attente ou à notre jouissance, comme dirait le cher Roland Barthes.